Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h.
Je proclame ouvert les Jeux de Tokyo célébrant la 32e Olympiade de l'ère moderne.
C'est parti pour les Jeux Olympiques de Tokyo, loin des fastes des éditions précédentes et en pleine pandémie. Le Japon a donné le coup d'envoi de ces JO hors normes et qui ont bien failli ne jamais avoir lieu.
Je vous le disais, Jean-Yves Lafesse nous a quittés. L'humoriste connu pour ses caméras cachées et ses canulars téléphoniques ici sur Europe 1 nous a fait tant rire, nous le réentendrons dans ce journal.
La situation épidémique inquiète de plus en plus. Le nombre de nouveaux cas de contamination double de semaine en semaine. Santé publique France s'inquiète. À nouveau, le nombre d'hospitalisations grimpe en flèche.
Certains partent, d'autres rentrent. Beaucoup de monde sur les routes ce week-end. Et la surprise pour ceux qui arrivent dans le sud de devoir remettre le masque en extérieur. Reportage à suivre sur l'A8 dans le Var.
La Bourse de Paris termine la semaine sur une note très positive. Plus 1,35%. Pour le CAC 40 à 6568 points.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Thierry, c'était le retour des orages en Bretagne. Eh bien, un autre épisode orageux pointe le bout de son nez, plus important celui-là. Prudence entre le Massif central et la Bourgogne ce soir et cette nuit. Une alerte orange est en cours dans de nombreux départements et je vous détaille tout à la fin du journal.
À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La flamme olympique brûle désormais à Tokyo et elle restera allumée jusqu'au 8 août prochain. Le coup d'envoi officiel des 32e Olympiades a été donné dans l'après-midi.
Oui, après un report d'un an et plusieurs valses hésitations en raison de la pandémie, ces Jeux pas comme les autres vont bel et bien avoir lieu. Ils ont été inaugurés lors d'une cérémonie en présence de l'empereur du Japon, Naruhito, Simon Rubin.
Oui, une cérémonie assez longue, hein, 3h50. Une flamme allumée à la fin au sommet d'un promontoire iridé. Descend par la star du tennis, la japonaise Naomi Osaka. Vous savez, c'est cette championne qui, lors du dernier Roland-Garros, avait voulu parler de la pression que ressentaient les champions, de la santé mentale, de la fragilité psychologique des sportifs et qui avait pour ça été très chahutée par les médias et l'opinion avant de quitter le tournoi. Alors une cérémonie qui a donc vu les délégations défiler dans un stade vide avec pour bande sonore des musiques issues des jeux vidéo japonais, Mario, Sonic et compagnie, hein, le Japon pays du jeu vidéo. Petit clin d'œil culturel et en tête de la délégation française, le porte-drapeau, l'un des deux porte-drapeaux, Samir Aït Saïd.
C'était génial, ça a été une belle cérémonie. On a vraiment vécu le moment à fond. On s'est fait plaisir, on a chanté haut et fort la Marseillaise. Et voilà, tout le monde a pris du plaisir et tout le monde a eu des étoiles plein les yeux et c'est le principal.
Et sans public dans le stade, eh bien ça a laissé l'opportunité aux athlètes de discuter entre délégations et parfois de se chambrer un peu. Écoutez Clarisse Abgenienou, l'autre porte-drapeau, qui nous raconte que la rivalité avec les États-Unis a déjà bien commencé.
Ils aiment bien chanter le USA, USA. Et on a fait un bouh et après on a continué. Nous sommes les Français et nous allons gagner. Donc voilà, on a bien profité et je pense qu'ils se sont dit, la France, c'est petit, mais ils sont grands. Voilà, on leur a fait peur.
On leur a fait peur et ces porte-drapeaux qu'on retrouvera très vite au bord des terrains parce qu'ils vont encourager tous les bleus qui sont en lice. Et puis Samir Aït Saïd, lui, sera dès cette nuit engagé en gymnastique dans l'épreuve des anneaux.
Merci Simon Rubin. Alors des Jeux Olympiques qui sont bien évidemment très suivis ici à Paris, qui sera la prochaine ville hôte. Ce sera en 2024. Un village a d'ailleurs été installé près du Trocadéro pour les fans qui veulent suivre les compétitions.
Et Jean-Jacques Herry, vous y avez passé l'après-midi pour Europe 1. Un écran géant a été installé et il y avait beaucoup de monde pour suivre cette cérémonie.
Oui, il y avait pas mal de monde en face de la Tour Eiffel tout au long de l'après-midi pour suivre cette cérémonie d'ouverture nippone.
C'est un événement qui fait rêver et tout ça par les valeurs, le message. Et ensuite, venir supporter les athlètes français là, qu'on attend de voir défiler. Et dans une quinzaine de minutes maintenant, là, ils sont avant-dernier. Donc on attend pour pouvoir célébrer ça sous la Tour Eiffel et avec pas mal de monde là.
Et l'arrivée à l'écran de la délégation française a effectivement suscité les vivas de la foule. Pour l'inauguration de cette zone olympique, les anciens porte-drapeaux étaient là, hein, Jackson Richardson, Laura Flessel, Vincent Defrane et Marie-Josée Pérec, très très émue.
Je suis ravie que ces Jeux aient lieu, quoi. C'est ma vie les JO, franchement, c'est quelque chose de magique.
Et on se dit, ben,
le 8 août, on va récupérer cette belle flamme qui va arriver chez nous. Jusque-là, en fait, on n'avait pas encore ressenti que les Jeux étaient chez nous, mais je pense que le 8, déjà aujourd'hui, hein, en fait, on sent déjà qu'il se passe quelque chose, quoi.
On avait effectivement l'impression que suivre Tokyo 2021, c'était déjà un peu préparer Paris 2024 et que le village olympique est aussi là pour faire comprendre aux Parisiens qu'ils n'ont plus que 3 ans à patienter.
Jean-Jacques Herry dans le fan village du Trocadéro installé le temps des Jeux Olympiques.
Bonjour madame, c'est les dépannages plomberies.
Oui.
Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil.
Voilà, c'est une disparition qui nous attriste particulièrement ici à Europe 1. Celle de Jean-Yves Lafesse qui a fait rire des générations de Français avec ses caméras cachées et ses canulars téléphoniques.
Oui, l'humoriste est décédé hier à Vannes à l'âge de 64 ans. Il souffrait de la maladie de Charcot qui lui avait été diagnostiquée l'année dernière. Jean-Yves Lafesse était bien connu ici à Europe 1 où il avait exercé ses talents de trublion dans les années 90. Comme dans ce sketch du 43e étage sans ascenseur où une dame, Madame Ledoux, appelle le plombier.
Alors c'est très simple, hein. Quand il arrive au 38e étage, il change d'escalier. Il prend l'escalier C qui descend jusqu'au 5e. Hein.
Et monter 5 étages ?
Non, descendre.
Comment on descend jusqu'au 5e ?
Oui, parce qu'ils ont muré après.
Oui, alors il faut descendre jusqu'au 5e étage ?
Voilà.
Une fois qu'on est monté au 38e ?
Oui, c'est ça, mais c'est pas par le même escalier. Hein.
Non, mais attendez, on descend jusqu'au 5e étage ?
Oui, alors faut pas qu'il se trompe parce que c'est dans le noir.
C'est dans le noir ?
Ah oui, il n'y a pas de lumière. Hein.
Comment il n'y a pas de lumière hein. Putain, il faut que j'appelle Belmondo, moi. Hein. Ça irait plus vite avec un hélicoptère et qu'il me jette directement dans votre fenêtre. Mais alors, chaque fois que vous montez 38, vous descendez 33 et vous remontez 40.
Voilà.
43.
Oui, c'est ça.
Mais ça fait 80 étages dans tout ça.
81.
C'est pas possible.
Alors, que je vous dise comment faire quand il arrive. Hein.
Oui.
Quand il est en bas, il y a un interphone.
Oui.
Il sonne et je descends lui ouvrir.
Pourquoi il ne marche pas l'interphone?
Mais non.
Bon, alors vous faites une blague qui vous aide.
C'est une blague pour Europe 1.
Pour un rabbin?
Non, pas pour un rabbin.
Pour qui?
Pour Europe 1.
Pour Europe 1?
Bon, c'était le sketch du 43e sans ascenseur sur Europe 1.
Voilà, Jean-Yves Lafesse, dont l'humour était taquin, souvent grivois, mais toujours libre et impertinent, Angèle Châtelier.
Oui, et Jean-Yves Lafesse était aussi l'audace, celle de quitter sa terre natale, le Morbihan, pour partir faire le tour du monde avant même d'avoir passé le bac. Irrévérencieux, aussi, il a fait ses premières armes dans la radio libre Carbone 14 au début des années 80, avant d'être à Radio Nova, et surtout ici, à Europe 1. Que ce soit ses caméras cachées, ses micro-trottoirs ou ses canulars téléphoniques, Jean-Yves Lafesse était avant tout l'humour. Parfois potage, souvent provocateur. Son métier, disait-il à Europe 1 en 2017, prendre le pouls du monde, finalement.
L'idée, c'est de trouver. Trouver quoi ? Bah, trouver ce qu'on a en nous. Le travail du comique, c'est d'aller prospecter au plus profond de nous-mêmes, sincèrement, en profondeur, dans tout ce qu'on a, notre matériel culturel, notre sensibilité et tout, et ressortir, traduire un peu ce qui se passe dans la société, ou pas, être à côté, décalé ou autre.
Il était aussi homme de scène. Son dernier spectacle s'appelait Détraqué. Pour Pierre Lescure, Jean-Yves Lafesse était autant poète que désopilant. Des mots qu'il a tweetés à l'annonce de son décès, survenu à Vannes. Ironie du sort, comme nom de ville pour celui dont la vie consistait avant tout à faire des blagues.
Voilà le joli portrait de Jean-Yves Lafesse signé par Angèle Châtelier.
Et on va continuer à lui rendre hommage dans quelques minutes. On va réécouter ses gags avec Maryse. Maryse Gildas, bien sûr, qui l'a bien connue sur cette antenne. Également dans l'actualité, le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire adopté au petit matin par les députés après une nuit blanche à l'Assemblée agitée par d'âpres débats.
Le texte est à présent en commission au Sénat. Il arrivera en séance à 21h30. Alors pendant que le Parlement étudie toutes les mesures pour tenter de freiner la progression de l'épidémie, le nombre de nouveaux cas de contamination double de semaine en semaine en raison du variant Delta. Le Conseil scientifique tire le signal d'alarme. Nous sommes aujourd'hui à 22 000 cas par jour. Dans une semaine, nous serons probablement à 50 000 et 150 000 à la mi-août. Virginie Riva, au-delà du taux d'incidence, Santé publique France s'inquiète également car les hospitalisations augmentent elles aussi très rapidement.
Oui, et c'est une première. Depuis la mi-avril, les hospitalisations ont augmenté de plus de 55% sur tout le territoire et de 35% en ce qui concerne l'entrée en réanimation. Au 20 juillet, on comptait près de 7000 patients hospitalisés, 900 en soins critiques. Les services de réanimation s'attendent à une arrivée massive de patients à partir de la mi-août, mais déjà, il y a quelques admissions, notamment dans le service du professeur Djilali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Poincaré de Garches.
On a eu nos premiers cas depuis le début juillet, déjà. Les deux exemples qui me viennent en tête, un homme de 39 ans sans antécédent particulier non vacciné, qui malheureusement a fait une forme sévère, et puis un autre homme de 53 ans qui n'avait eu qu'une seule injection de son vaccin, qui a été contaminé et malheureusement également fait une forme sévère. Heureusement, tous les deux ont pu quitter la réanimation et sont en convalescence maintenant.
Les entrées à l'hôpital, c'est le critère qui va être le plus surveillé dans les semaines à venir. Mais déjà, le phénomène est particulièrement inquiétant en Occitanie, où les nouvelles hospitalisations ont été multipliées par 3 en 15 jours, mais aussi en Martinique, où elles ont doublé en une semaine.
Virginie Riva.
Et puis notez concernant la vaccination que l'Agence européenne des médicaments approuve l'utilisation des doses Moderna pour les 12-17 ans. Ce vaccin devient donc le deuxième à être autorisé pour les adolescents au sein des 27 pays de l'Union européenne après le Pfizer-BioNTech.
Et alors que l'heure est à un coup d'accélérateur sur la vaccination, cette affaire à Grenoble, une employée du vaccinodrome est soupçonnée d'avoir établi de faux certificats moyennant de l'argent.
Et la femme de 30 ans a passé 48 heures en garde à vue et devrait être mise en examen ce soir, Marion Dubreuil.
Oui, car cette jeune femme occupe un poste stratégique dans le plus grand centre de vaccination de Grenoble. 4700 injections par jour. C'est elle qui tamponne les attestations de vaccination des patients. Après chaque dose, ce sont ces attestations qui permettent d'obtenir un QR code et donc un pass sanitaire. Son comportement avait inquiété en interne et la police avait été alertée. À leur première visite, les policiers n'ont rien constaté d'anormal, mais ils sont revenus mercredi après-midi et ils ont surpris la trentenaire en train de valider de fausses attestations. Entre-temps, elle avait effacé une grande partie des fichiers sur son téléphone portable, mais un spécialiste cyber est parvenu à retrouver des centaines de copies de cartes vitales ainsi que des messages de transactions. 350 euros le faux pass sanitaire. Les policiers ont également retrouvé de l'argent liquide à son domicile et un certificat vaccinal qui n'était pas à son nom.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Éric Zemmour sera jugé le 8 septembre prochain. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris pour provocation à la discrimination et injure raciale. En septembre dernier, le journaliste avait estimé lors d'un débat que les migrants mineurs isolés étaient des voleurs et des violeurs.
Prudence et patience si vous prenez la route des vacances ce week-end ou si vous rentrez, il va y avoir beaucoup de monde. Aujourd'hui est classé orange au niveau national dans le sens des départs, demain sera rouge.
Et nombreux sont ceux qui vont dans le sud-est, dans le Var notamment, où le port du masque en extérieur a été réimposé. Reportage sur la 8 où se croisent les départs et les arrivées. Frédéric Michel.
Ces Niçois partis ce matin de Bretagne ne regrettent pas d'avoir anticipé leur voyage retour. Seulement quelques ralentissements, la route a été fluide.
En fait, on part 3 semaines et on part le lundi, mardi, on revient le jeudi, vendredi. Pour éviter le week-end, on est tranquille et puis on n'a pas de stress. Bon, y a quelques zones d'ombre, hein, comme Bordeaux, Arles, mais sinon ça se passe bien. Ouais. Faut être patient et puis faut être attentif surtout.
Plus que quelques kilomètres à parcourir pour cette famille avant de prendre possession de leur location de vacances à Fréjus.
Bah là, on est parti de Haute-Savoie.
Une petite demi-heure, on est arrivé à destination. On a eu un petit ralentissement quand même, c'était à
Valence.
Autrement, ça roulait nickel. Alors on va remettre comme il faut le masque, puisqu'apparemment ce sera partout sauf sur les plages.
Avec l'obligation de porter à nouveau le masque dans le département du Var, Marie, qui a passé de très bonnes vacances, est plutôt soulagée de rentrer chez elle en Camargue.
La situation, elle est tellement défavorisante pour les vacances qu'on rentre. Ça n'a plus le même goût.
Cette famille de Saint-Étienne vient de passer 2 semaines dans le Var et on a bien profité.
Ah là, on part à temps. Là, mais je l'aurais su, je serais parti tout de suite. Bah là, ça ne vaut pas le coup de venir. Si c'est mettre le masque, non, on suffoquerait. Non, c'est pas possible.
Les départements voisins des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône n'ont pas encore rendu obligatoire le port du masque, mais la situation pourrait changer face à la recrudescence de l'épidémie.
Frédéric Michel sur la 8 pour Europe 1.
Et le journal était signé Sophie Tussaud qu'on retrouve à 18h30 pour l'essentiel de l'info tout à l'heure. Marlène Duré, attention, attention pour ceux qui vont rouler ce soir, cette nuit, mais attention aux orages bien sûr.
Oui, alors on va faire un petit point sur la Bretagne. L'alerte orange, et donc dans les trois départements bretons, plus le département de la Manche, devrait être levée dans 2 ou 3 heures. Les orages ont été moins actifs que prévu, il faut être honnête. On a quand même relevé près de 400 impacts de foudre dans le Finistère. Donc tout ça va s'évacuer vers la Manche. On va surtout s'intéresser donc à cette troisième vague orageuse qui nous attend ce soir et cette nuit. Ça va débuter dans le sud-ouest et c'est surtout en arrivant dans le Massif central et en Bourgogne qu'il va falloir être prudent. On attend des phénomènes violents, peut-être même, je vous le disais à midi, tourbillonnaires. Peut-être une création d'une tornade de petite intensité. C'est ouais. Tout à fait possible.
Prudence.
Gare aux chutes de grêle, je pense aux jardins notamment. Plusieurs départements, 11 précisément, ont été placés en alerte orange. Donc on va les noter. Le Lot, la Corrèze, la Creuse, toute l'Auvergne en excluant la Haute-Loire, l'ensemble de la Bourgogne, plus le département de la Loire. Et ça peut déborder évidemment dans les départements limitrophes. Hein. Et puis il y a toujours ces deux départements en vigilance crue, l'Oise et l'Aisne bien évidemment. Et ça c'est dû aux intempéries de la semaine dernière. Alors l'évolution pour demain. Encore de bons orages en toute fin de nuit, voire au petit jour entre l'Auvergne, le Lyonnais, la Champagne et la Lorraine. Ensuite, ça va se tasser en cours de matinée avant de reprendre l'après-midi depuis les Cévennes aux régions du Grand Est en passant par Rhône-Alpes, la Bourgogne, la Franche-Comté. Ça longe aussi les frontières du Nord. On n'échappe pas aux averses orageuses. Ça, c'est vraiment pour l'info principale. Ailleurs, ça va. Les températures, elles vont baisser. 19 à 23 en Bretagne et dans le Cotentin contre 32 à 35 des plaines du Roussillon à la Provence et à la Corse, il fera 26 à Paris.
Merci Marlène, on fait un prochain point bien sûr complet à 18h30, à tout à l'heure.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Allez, dans un instant, on rend hommage encore et encore à Jean-Yves Lafesse, l'homme des canulars, des gags radio et télévision. Il nous a fait tant rire, bien longtemps, sur Europe 1. On a appris sa mort, vous le savez, à la mi-journée, il avait 64 ans. On va le réécouter et on va en parler avec une voix historique d'Europe 1, Maryse, Marie Gildas. Rendez-vous dans 2 minutes.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Mais c'est pas possible, monsieur.
Arrête la fesse.
Ça, c'était le jingle d'Arrête la fesse en 1994 sur l'antenne d'Europe 1. On va rendre hommage à Jean-Yves Lafesse. Ce soir, on a appris son décès à la mi-journée. On a tous, bien sûr, en mémoire ces gags téléphoniques sur Europe 1, puis ensuite à la télévision, sur Canal. On va en parler avec une voix, et quelle voix, une voix historique d'Europe 1. Bonsoir, Maryse.
Bonsoir, merci, c'est gentil de me dire ça.
c'est sincère. On est heureux que vous soyez avec nous ce soir. Jean-Yves Lafesse, vous avez travaillé avec lui, vous l'avez bien connu, bien sûr, ici.
Oui, dans les années 70, je parle du Moyen-Âge, je crois. Je travaillais avec Philippe Gildas, on était tous les deux au matin,
sur la matinale,
à 9h, et c'était avant les radios libres, avant Radio Nova et avant Carbone 14, qui sont nés en 81, comme vous savez. Donc c'était juste un petit peu avant, et on attendait ce canular téléphonique à 9h moins le quart, l'heure des humoristes, en radio, et on attendait, mais comme le Messie, on attendait, parce qu'il ne disait jamais, il en a fait quelques-uns en direct, très compliqué à faire des canulars téléphoniques en direct.
Oui,
c'était très difficile, mais on attendait ça comme le Messie, tellement il nous faisait rire, mais on a ri, on pleurait, vraiment.
C'était déjà
beaucoup ri avec Coluche, mais avec lui aussi. Ouais.
C'était déjà vraiment. Des canulars téléphoniques, il y avait déjà toute la panoplie, on va dire, de la fesse.
Ah oui, absolument. Il y avait surtout celui qui me revient en mémoire ce soir, c'était celui de cette dame, Germaine Ledoux. extraordinaire personnage, qui habitait un 35e étage.
Exactement, on vient d'entendre dans un de 18.
Et qui appelle le plombier parce qu'il manquait un joint. Avec le plombier qui est venu d'ailleurs le lendemain à l'antenne parce qu'il n'en pouvait plus non plus.
On va écouter justement encore un autre extrait, en effet, dans la peau de Germaine Ledoux. Écoutez.
Pourquoi vous m'appelez, madame ?
Alors, je vous appelle pour vous demander un petit service.
Oui, si je peux.
Oh, vous êtes gentil. Je voudrais savoir si vous pouviez me prêter, pour ce soir, votre dentier.
Mon dentier ?
Oui.
Mais moi, je ne porte pas de dentier, madame.
Si, hein.
Mais non, madame, moi, j'ai toutes mes dents, hein.
Bon, ben, c'est pas grave, écoutez.
Mais non.
Par contre, est-ce que vous pouvez me rendre un autre service que...
Oui, et ce serait quoi ?
Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Et est-ce que ce serait possible que vous me prêtiez les couches du bébé ?
Comment ?
Les couches du bébé.
Mais j'ai pas de bébé non plus.
Comment je vais faire alors ?
Quel âge vous avez ?
98.
Ah oui.
Si vous n'avez pas de couches du bébé ?
Non.
Et si je vous pouvais emprunter les vôtres ?
Comment ? Mais moi je porte pas de couches non plus, madame.
Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire?
Bon, excusez-moi, madame, je ne peux pas vous rendre service, hein.
Alors,
avec toutes mes excuses, hein.
Alors attendez.
Oui?
J'ai oublié de vous demander quand même pour la hanche.
Pourquoi pour la hanche?
La hanche artificielle.
Mais j'en ai pas non plus.
Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous avez d'artificiel alors?
Rien du tout. J'ai rien du tout d'artificiel.
Voilà, Germaine Ledoux, alias Jean-Yves Lafesse. Vous découvriez ces sketchs, ces canulars à l'antenne le matin après 8h30 avec Philippe?
Il ne disait pas tout, hein, ouais. Donc on les découvrait. Oui, oui, vous... on les découvrait, on était bord de rire, du début à la fin, quoi, c'était...
Et Philippe, vous lui dire d'aller... Tu vas un peu trop loin ce matin ou...
Oui, parce que ça pouvait paraître un peu cruel.
Vous disiez, Maryse, que dans la vie, alors voilà, il va très loin dans ses canulars, dans la vie, c'était quelqu'un de très calme et plutôt d'introverti.
Oui, enfin, c'était quelqu'un de profond, Jean-Yves, d'une gentillesse extrême, introverti, je pense, moi. Mais quand il rentrait dans le personnage de Germaine Ledoux, il devenait irrésistible, quoi. Mais c'était une belle personne, Jean-Yves.
Comment il est arrivé sur Europe 1?
Ah, écoutez, je crois que c'est Philippe qui l'a recruté.
Ouais.
Oui, il me semble bien que c'est ça, parce que ça fait loin maintenant.
Et après, justement, c'est l'avènement de la bande FM, donc il va aller aussi...
Oui, c'est ça. Après, il va aller sur Radio Nova et Carbone 14. Et puis après, la télé, et Canal, bien sûr. Ouais. Mais vraiment, on a beaucoup aimé, vraiment.
On va écouter un nouvel extrait. Ce qui n'était pas tant, c'est qu'il arrivait à embobiner son interlocuteur au téléphone. On écoute un nouvel extrait tout de suite.
Allô?
Oui.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Comité d'entreprise des PTT à l'appareil.
Oui.
Nous faisons un petit pot aujourd'hui pour la mise à la retraite d'un ami qui travaille au PTT.
Oui.
Alors le problème c'est qu'on avait invité un dresseur d'animaux, monsieur Robert Ledoux, qui est venu faire un numéro de dressage de rats. Et le problème c'est que la bête est partie dans le standard téléphonique et qu'apparemment d'après nos recherches elle serait dans votre coin.
Ah bon?
Permettez, je vais vous passer le dresseur. Hein.
Oui.
Oui. Alors, est-ce que vous avez entendu un petit bruit très très aigu?
Ah, il y a un petit sifflement là.
Ah.
Oui, il y a un sifflement, oui.
Oui, oui, bah c'est lui, hein. C'est
deux fois ça, la première fois très fort, la deuxième fois moyen. Oh oui, là c'est beaucoup, hein. Voilà, ouais. Ouais, ouais.
Bon, alors attendez. Donc ça veut dire qu'il est dans votre combiné téléphonique. C'est un rat tout gris, hein, avec des tout petits yeux rouges. S'il a les yeux rouges...
Ah oui, je vois deux petits points rouges à travers mon truc, là.
Et ce qui est fou, c'est que cette dame va continuer et va donner même du gruyère râpé à ce rat, là où on en est.
Exactement. Et Jean-Yves a toujours travaillé en famille. Il travaillait avec son frère.
Ouais.
Ils étaient toujours heureux, tous les deux. Ouais.
Il s'est retiré ensuite à Vannes. Il était originaire de Pontivy. Il a inventé un style en radio. Il y avait les caméras cachées en télévision depuis longtemps, mais en radio, il y a vraiment un style Lafesse.
Je crois qu'on peut faire même le parallèle avec Francis Blanche et Pierre Dac.
Ouais.
Et je crois que la suite, c'est vraiment Jean-Yves, quoi.
Ouais.
C'était aussi fort, vraiment.
Lafesse était un pseudo, son vrai nom, c'était Jean-Yves Lambert.
Jean-Yves Lambert.
Il expliquait sur Europe 1, d'ailleurs, comment il avait pris ce pseudo Lafesse. Écoutez.
Je suis monté sur un corner et je me suis élevé dans les airs à la manière des grandes danseuses étoiles qui n'ont rien à foutre sur un stade de foot.
Ouais.
Et au moment de décocher ma reprise, c'est très simple, je me suis troué, le ballon a ricoché sur ma fesse gauche, mais j'ai pris le goal à contre-pied.
Donc, vous avez marqué le but grâce à votre fesse.
À votre fesse. Et donc dans le quart en rentrant, toute l'équipe et tout le monde, la fesse.
Ouais. Voilà, c'était dans l'émission Il n'y a pas péno de Thomas Touroud sur Europe 1.
Je ne me souvenais plus de cette histoire-là. Mais...
il va rester très lié à Europe 1. Il va venir, revenir, repartir, aller sur la FM et revenir régulièrement sur Europe 1.
Selon les directeurs qui étaient là, qui en voulaient, qui n'en voulaient pas. Vous savez comment ça se passe.
Ça arrive. Mais justement...
Je suis un déconneur professionnel.
C'est ça. Voilà. Justement, ces blagues se prêtaient particulièrement bien à la radio.
Tout à fait.
Et après, il a inventé ce style sur Canal. On se souvient. Maryse, vous avez été très très proche de Coluche. On le sait, c'est bien vrai, sûr. Les deux, d'ailleurs, vont ensuite aller après Europe 1 ou parallèlement à Europe 1 sur Canal+.
Oui. Je ne sais plus en quelle année c'était, d'ailleurs, 86.
C'est ça, exactement, tout à fait. Ouais. Bizarrement, un destin assez proche, assez commun.
Pardon ?
Un destin, finalement, entre Coluche et La Fesse, assez proche, assez commun,
oui,
de
oui,
faire
oui,
la fois Europe 1 et Canal+.
Je pense qu'ils s'aimaient beaucoup, les deux. Hein.
Ouais.
Ils ont eu des différends.
C'est vrai ?
À un certain moment, ah oui, ouais. On pouvait avoir des différends avec Coluche, quelquefois. Oui. Avec Jean-Yves, je n'étais pas toujours d'accord. Mais il s'aimait beaucoup. Je sais que Jean-Yves aimait beaucoup, était en admiration devant Coluche. Oui, oui, il nous l'avait dit.
Allez, on écoute encore un extrait, si vous le voulez.
Oui, oui, s'il vous plaît.
Où il se fait passer pour un sous-préfet qui appelle un camp naturiste.
Me serait-il possible de passer mes vacances tout en gardant mon slip ?
Ah non, monsieur le sous-préfet.
Je suis à 90% naturiste.
Oui.
Les 10%, c'est mon slip.
Monsieur le sous-préfet, ou même si vous étiez le président de la République, vous êtes obligé de vous plier au naturiste.
Voilà, on est complètement dans l'improvisation en permanence. Hein.
Oui,
que ce
oui,
soit en télévision avec un passant ou au téléphone avec, avec un auditeur, il improvise constamment.
Voilà, il sentait tout de suite la personne au téléphone. C'est fou, quoi. C'était une fulgurance folle.
Et il faut le redire aussi, pendant ce confinement, il avait posté plusieurs vidéos sur sa page Facebook. Il le disait lui-même, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un déconneur professionnel.
Exactement.
Voilà ce qu'on peut garder de Jean-Yves Lafesse. Merci beaucoup,
Marie. C'est sa gentillesse extrême, c'est sa gentillesse. Il était tellement gentil.
On voulait...
Tellement, presque pur, vous voyez.
On voulait lui rendre hommage ce soir, bien sûr. Jean-Yves Lafesse qui est décédé à 64 ans. On a appris donc sa mort à la mi-journée. Grand merci à vous, Maryse, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Europe 1, Thierry Dagiral.
18h27, dans un instant, le Fil Info, puis les grandes voix. On va parler des JO, mais également du pass sanitaire et du sprint parlementaire. Vous prenez la parole, bien sûr, hein, vous le savez maintenant. Vous êtes les bienvenus, 39-21. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et à 18h30, l'essentiel de l'info avec vous, Sophie Tussaud.
Près de 4 heures de cérémonie et une flamme allumée après un report d'un an. C'est la joueuse de tennis Naomi Osaka qui a embrasé la vasque olympique cet après-midi à Tokyo. 11 000 athlètes de 206 délégations vont tenter de décrocher une fameuse médaille d'or jusqu'au 8 août. La cérémonie cet après-midi s'est déroulée en présence de l'empereur du Japon, Naruhito. Il a fait rire des générations de Français avec ses caméras cachées et ses canulars téléphoniques, notamment ici à Europe 1. L'humoriste Jean-Yves Lafesse est décédé hier à Vannes à l'âge de 64 ans. Il souffrait de la maladie de Charcot qui lui avait été diagnostiquée l'année dernière. L'épidémie de Covid-19 continue de progresser. Près de 22 000 nouveaux cas de contamination détectés ces dernières 24 heures. Un chiffre qui double de semaine en semaine, selon le conseil scientifique qui craint 150 000 cas quotidiens d'ici 3 semaines, soit à la mi-août. Et pendant ce temps, le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire est au Sénat. Il a été adopté en première lecture tôt ce matin à l'Assemblée à la suite d'une nuit blanche. Il y a désormais 2 vaccins pour protéger les 12-17 ans du Covid-19. L'Agence européenne des médicaments approuve l'utilisation des doses élaborées par le laboratoire Moderna. 2e vaccin donc à être autorisé pour les adolescents au sein de l'Union européenne après le Pfizer-BioNTech.
Merci Sophie Tussaud, nouvelle édition complète à 19h. La météo, Marlène Duré, une quinzaine de départements sous surveillance en raison bien sûr des orages.
Oui, l'alerte orange dans les Côtes d'Armor, le Morbihan, le Finistère et la Manche va être levée vers 21h a priori. En revanche, 11 départements font l'objet d'une vigilance orange pour des orages qui vont circuler ce soir et cette nuit. Notez bien, ça concerne la Creuse, la Corrèze, le Lot, pratiquement toute l'Auvergne et l'ensemble de la Bourgogne. Attention donc au vent, aux chutes de grêle et puis au cumul de pluie évidemment. Alors on va avoir de nouveaux orages demain après-midi. Nouveaux orages depuis les Cévennes jusqu'au quart nord-est et centre-est du pays, mais aussi le long des frontières du nord, tandis que de nouvelles pluies vont arriver en Bretagne demain, des pluies assez soutenues. Allez, averses orageuses à prévoir sur le quart nord-ouest du pays, toujours dans l'après-midi, et les températures qui vont baisser partout cette fois.
Merci Marlène, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Allez, on ouvre le débat des grandes voix de ce vendredi soir avec Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. Bonsoir Guylaine.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Merci bien, très bien. Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Thierry.
Et bien sûr, vous, 39-21, vous prenez la parole. Je voudrais qu'on commence, si vous êtes d'accord, par les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu cet après-midi. Longue cérémonie d'ouverture. Emmanuel Macron était le seul président du G7 présent et il commence ces Jeux dans une ambiance particulière avec un huis clos, avec des bulles sanitaires, avec un mécontentement de l'opinion publique japonaise. Guylaine Ottenheimer, est-ce qu'il fallait maintenir ces Jeux Olympiques malgré le risque sanitaire ?
Pour les athlètes, oui. Alors évidemment, commercialement, économiquement, c'est quelque chose de très difficile à décider, de faire des Jeux sans spectateurs. Mais je pense que une partie importante des Jeux, c'est quand même la préparation d'équipes de premier rang, de premier niveau. Et un des enjeux, c'est des Jeux Olympiques, c'est non seulement montrer un spectacle impeccable, aussi bien la cérémonie d'ouverture que pendant le déroulement des différentes disciplines, mais c'est surtout qui va gagner des médailles d'or.
Ouais.
C'est ça qui fait le prestige des nations qui participent.
C'est ça.
Et en plus, autant il est difficile pour certaines nations d'organiser des Jeux, parce qu'il faut des infrastructures, il faut un développement économique assez puissant. En revanche, beaucoup de nations qui n'ont pas les moyens d'organiser les Jeux peuvent arriver à conquérir des titres.
Tout à fait, parce que derrière, Alexandre Malafaï, c'est bien sûr une vitrine importante, cruciale pour ces nations.
Ah bah c'est un moment exceptionnel pour un pays d'organiser les Jeux Olympiques. C'est un moment de rayonnement, c'est un moment d'influence. On démontre tout ce qu'on sait faire. On en profite pour valoriser son histoire, sa tradition, sa culture, sa population, son peuple. Voilà, on le voit avec chaque cérémonie d'ouverture qui raconte à chaque fois une histoire extraordinaire, celle du pays, et ce que le pays veut envoyer comme message au reste du monde. Ça, c'est des moments qui sont absolument à chaque fois véritablement magiques. Maintenant, c'est vrai que tout l'envers du décor, tout ce qui échappe au commun des mortels, c'est-à-dire tout le business qui se fait, toute la diplomatie parallèle qui se fait, parce que le monde entier, pendant un mois, se retrouve et se croise au même endroit, ça, pour une fois, ça va très très peu fonctionner, puisque globalement, voilà, personne ne va se déplacer pour aller voir les compétitions, aucune entreprise ne pourra faire ce qu'elle avait espéré faire, c'est-à-dire convier ses clients, des invités, enfin, tout ce qui faisait partie aussi de la magie des Jeux. Donc là, il y a évidemment un effet attendu pour le Japon qui sera certainement beaucoup moins important que ce qui était espéré.
Guylaine Ottenheimer, c'est vrai que ça devrait être un grand moment pour le Japon, ils voulaient au départ être les Jeux du rétablissement, suite bien sûr aux trois catastrophes de 2011, séisme, tsunami, accident nucléaire, la preuve finalement de leur résilience, et puis patatras, tout est tombé à l'eau, quoi.
Oui, mais reste la diffusion des épreuves par la télévision. On le voit avec la cérémonie d'ouverture. C'est presque plus important que ce soit vu par le monde entier que par quelques VIP qui se voient. Effectivement, il y a tout autour des Jeux Olympiques l'organisation d'énormément de festivités, de dîners, d'attractions, de rencontres, de moments VIP. Bon, ça, c'est vrai que ça va pas exister. Mais de toute façon, bon, la diplomatie des Jeux Olympiques, telle que le voulait le Coubertin, on en est très loin. Il espérait que les Jeux Olympiques participeraient comme le télégraphe, les congrès, les traités à l'établissement de la paix. Or, malheureusement, là où on voit des conflits, des guerres civiles, des génocides, c'est des endroits où il n'y a pas de jeux, où il n'y a pas d'athlètes, et où il n'y a même souvent pas de télévision. Donc, l'objectif honorable et disons l'utopie de Coubertin, malheureusement, n'a pas lieu d'être. C'est un moment de joie, c'est un moment de partage et surtout un moment d'excellence. Tout le monde se souvient, à chaque Jeux Olympiques, il y a 2, 3, 4 athlètes qui font des performances extraordinaires. Et c'est de la magie pour le monde entier, même pour les pays qui n'ont pas pu envoyer de champions.
Justement, Alexandre Malafaï, ces JO pourraient être très politiques, notamment après la décision début juillet du CIO d'autoriser les sportifs à exprimer leurs opinions pendant les Jeux jusqu'au début des épreuves. Ils ont désormais le droit de poser un genou à terre, de tenir des propos politiques face aux médias, sur les réseaux sociaux, de porter des inscriptions sur leurs vêtements lors des conférences de presse. Ça, c'est une bonne décision ?
Ça avait déjà existé, et c'était très puissant.
Je vais laisser
la parole. Non, non, juste, oui, c'est quelque chose de très puissant.
Ouais.
On l'avait vu dans le passé avec les poings levés des Noirs, etc.
Exactement.
Mais moi, je trouve que c'est une décision très importante parce que les JO sont très politiques. Donc, pourquoi pas laisser la parole aux athlètes pour justement souligner des conflits, des injustices, etc., bien sûr.
Alexandre,
je pense qu'il faut malgré tout faire attention parce que ça reste une enceinte de sport. Et le sport, c'est aussi un moment donné où on se retrouve pour justement oublier un tout petit peu ce que le monde nous propose au quotidien comme soucis et comme stress. Alors évidemment, les enjeux d'égalité, les enjeux de racisme, toutes ces questions-là sont essentielles. Mais est-ce qu'il faut en permanence tout mélanger? Est-ce que le CIO pouvait s'y opposer au nom de cette espèce de tendance au moralisme de c'était peut-être difficile? Mais d'un autre côté, tout le temps tout mélanger, parce qu'après tout, on pourra venir avec chacun sa cause. Donc ça veut dire une espèce de foire permanente, de revendications. Pourquoi pas mettre après, pourquoi pas des revendications syndicales? Enfin, on peut tout imaginer, je veux dire. Alors pourquoi pas? Mais je ne suis pas sûr que ce soit véritablement l'esprit des JO. En revanche, moi, je regrette quand même qu'il n'y ait pas du tout de spectateurs. Je trouve que ça, c'est
vu la cérémonie cet après-midi.
C'est une véritable faute, à mon avis, parce qu'il restera bien sûr des médailles d'or et il faut se réjouir pour les sportifs qui préparent. C'est leur vie, quand même, dont on parle. C'est des dizaines de milliers de sportifs pour ce moment-là est absolument le moment de couronnement d'une vie, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, mais on participe.
Et des
gens gagnent encore mieux. Ça, c'est extraordinaire, bien sûr. Il y a des années de performance. Mais le fait de vous imaginer la finale du 100 mètres, pas un public, pas une clameur, à part éventuellement des fausses clameurs qui seront mises dans les micros pour faire semblant ça, c'est quelque chose qui va manquer. Et je pense que malgré tout, il faudra qu'on joue, on trouve un équilibre, parce qu'on ne peut pas arrêter de vivre autour de tout ce qui est important.
Allez, l'ouverture de ces JO 2021 à Tokyo, on continue à en parler dans un instant avec vous, hein, 39-21, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h40, c'est votre débat des grandes voix avec ce soir Guylaine Ottenheimer de Challenge et Alexandre Malafaille du think tank Sinopia. On parle des Jeux Olympiques, ouverture bien sûr aujourd'hui à Tokyo, et on en parle avec vous aussi au 39-21. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Lille.
Oui, tout à fait.
Vous êtes un passionné, vous avez regardé cette cérémonie?
Alors, pas complètement, parce que j'étais au travail, mais j'ai regardé les extraits, bien sûr.
Ça a duré un peu 4 heures, quand même.
Voilà, replay ce soir, évidemment.
C'est important pour vous, ces JO, et c'est important qu'ils se passent tout de même, alors que l'opinion publique japonaise, et alors que le moment sanitaire est compliqué, il fallait quand même qu'ils se tiennent coûte que coûte.
Bah, oui, je pense, parce que bon, premièrement, pour les athlètes, ça serait les pénaliser. Ils n'y peuvent rien, les pauvres, par rapport au Covid. Et puis, ça reste quand même des jeux de la magie, quoi. Donc, on va profiter. Bien sûr, il n'y aura personne dans les stades, mais on va visionner quand même ces athlètes formidables. On va voir du beau spectacle, de l'émotion, de la lutte. Et ça, je veux dire, c'est des images qu'on n'oublie jamais, quoi.
Bien sûr.
Donc, je pense qu'on va en faire profiter. Et c'est dommage, malheureusement, pour les Japonais qui sont dans un contexte sanitaire difficile, certes. Mais pour les athlètes, je pense que c'était le monde entier. C'est quand même magnifique d'avoir des Jeux Olympiques.
Et à chaque fois, c'est un carton d'audience. Hein. Je crois que c'est 5 milliards de téléspectateurs dans le monde. C'est quand même juste fascinant. Merci à vous, Philippe, de nous avoir contactés ce soir au 39-21. Guylaine Ottenheimer. Une des grosses critiques de ces Jeux, c'est bien sûr leur coût. Tokyo 2021 s'annonce comme les Jeux d'été les plus chers de l'histoire, près de 16 milliards de dollars. Est-ce que c'est encore acceptable aujourd'hui?
Évidemment, on dit que ces 16 milliards auraient pu servir au développement de pays très pauvres, à lutter contre la pauvreté, mais bon, si le monde était parfait, ça se saurait. Et il y a toujours eu un côté commercial, fête, panem un circonses, etc. Moi, je trouve formidable que ça soit vu par des milliards de personnes. Moi, je trouve très bien qu'il n'y ait pas de spectateurs, parce que c'est aussi une façon de montrer au monde qu'il faut de la discipline, qu'il faut de la rigueur, qu'on est face à une pandémie qui est quand même quelque chose de très grave, qui peut être très grave, qui peut très mal tourner. Les Japonais ont pris leurs responsabilités, c'est très bien, et voilà, et que les Jeux Olympiques aient lieu dans des circonstances très particulières, c'est normal, on vit une période très particulière, il ne faut pas l'oublier. Tous les jours, on a les chiffres en France qui nous montrent qu'on n'est pas sorti complètement d'affaire. Donc voilà, on aura quand même le spectacle, il sera différent. Et ben, on est dans une période différente, et c'est comme ça. Tout le monde l'accepte, tout le monde le comprend. Bon, même s'il y a eu quelques protestations, parce que voilà, on est en démocratie, les gens sont pas toujours d'accord sur tout. Ben, ça fait partie de la vie.
Ouais. On parlait tout à l'heure des tensions géopolitiques. Alexandre Malafaye, ça commence, on le voit bien. Le judoka algérien Fethi Nourine a annoncé hier sa décision de déclarer forfait lors de ces Jeux pour ne pas avoir à affronter un adversaire israélien.
Aussi des nouveautés de ce type de, ouais, de, ce type de rapport. On est dans la même logique que tout à l'heure de ce que vous évoquez sur le fait qu'on autorise finalement à venir avec ses convictions politiques et puis à un moment donné à les manifester. Donc là, on refuse le combat alors que normalement, c'était ça aussi la magie des Jeux, c'était se retrouver au-delà des clivages traditionnels. Et en général, d'ailleurs, les sportifs qui sont plutôt des gens assez pacifiques et qui prennent un peu de recul et parce qu'ils voyagent, parce qu'ils sont toujours très, très tournés vers l'autre, ont plutôt une approche très, très pacifique et très, très apaisée des sujets. Donc c'est très dommage qu'au contraire, dans une occasion comme celle-là, ceux qui sont opposés sur un plan politique dans la vraie vie, ouais, n'en profitent pas pour se rapprocher. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, et le sport, en général, crée des miracles dans ce domaine-là. Après, moi, je reviens sur ce que disait Guylaine Antonheimer. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la démesure. C'est-à-dire, je pense qu'en effet, il faut faire attention, mais ce qui est en train de se passer un peu partout, c'est que si on n'y prend pas garde, cette façon de vivre avec le virus, elle va rester pendant 10 ans, pendant 15 ans, parce qu'il y aura toujours une bonne raison de se protéger de quelque chose qui survient dans nos vies sur un plan sanitaire, ouais, parce qu'on va toujours courir après, de toute façon, un virus qui sera plus intelligent et un vaccin qui sera toujours en décalage d'effet. Et je ne suis pas persuadé que voilà, les messages qu'on envoie actuellement à l'humanité en matière d'hyperprotection et de mise à, entre guillemets, entre parenthèses et de manière assez longue maintenant de tous nos modes de vie, sans aucun équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Voilà. Ouais. Entre zéro spectateur et dans un stade ouvert, 5 à 10 000, un stade qui en contient 80 000, à mon avis, il y a du bon sens quelque part à trouver. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé ce bon sens.
Allez, 7h moins le quart, on change de sujet. Ça vous va? On va parler du pass sanitaire avec les députés qui n'ont presque pas dormi, puisque ce matin, à 5h40, précisément, après 1200 amendements et des débats houleux, l'Assemblée nationale a finalement adopté l'extension du pass sanitaire. Dans la poursuite de la procédure accélérée, le texte arrive aujourd'hui en discussion au Sénat. 117 voix pour, 86 contre. Le gouvernement voulait que ce texte passe comme une lettre à la poste. Finalement, Guylaine Ottenheimer, c'est passé au forceps quand même.
Oui, vous savez, le jeu des politiques est quelquefois un peu politicien. Moi, depuis très longtemps, je préconise ce pass sanitaire. Je pense que c'est la seule façon justement de pas tout fermer, vivre sous cloche et d'évoluer avec la maladie et minimiser les risques. Donc je ne comprends pas ceux qui votent contre. Oui, d'une certaine manière, ça consiste à obliger les gens à se vacciner, mais obliger n'est pas un crime. Hein. On a eu la même discussion quand il s'agit du port du casque en moto, de la nouvelle ceinture de sécurité. Moi, je veux bien tous les gens qui sont anti-pass sanitaire, anti-vaccin, disent « Oui, mais moi, je m'en fiche d'avoir le Covid, c'est pas grave, ben oui, ils ont 25 ans, 30 ans, etc. » Sauf qu'ils le passent à des dizaines de personnes, et ces dizaines de personnes le passent à des dizaines de personnes, et ouais, c'est comme ça qu'on a des mutants. Ouais. La liberté s'arrête là où votre action entrave la liberté des autres.
Mais Guylaine, et donc on est dans il y a tellement d'exceptions, finalement, on se dit. On entend cette petite musique qui monte sur l'obligation vaccinale. Est-ce que, finalement, ça n'aurait pas été plus simple?
Oui, c'est un peu hypocrite, je suis tout à fait d'accord. Ça, je suis d'accord que c'est très hypocrite. Mais moi, je suis quand même très agacée par... J'en vois beaucoup, là, autour de moi, notamment chez les 25, 20, 20, 35 ans. Moi, je fais ce que je veux, c'est ma responsabilité. Oui, mais qui paye les dégâts? Moi, je dis, OK, vous faites pas vacciner, mais si vous arrivez en réa, eh ben, c'est vous qui payerez tout. Si vous contaminez des gens, c'est vous qui payerez les traitements. Il y a un moment, on peut pas non plus avoir les tests Covid gratuits, la réa gratuit, et puis chacun fait ce qu'il veut. Non, on est dans un système, c'est comme s'il dit, ben, moi, ça m'embête de respecter les feux rouges, moi, récemment. Alors, les gens qui, en plus, sur les réseaux sociaux, quand même, circulent des tas d'informations complètement fallacieuses sur le fait que les mutants se développent là où il y a les vaccins, alors que justement, les mutants se développent là où on n'a rien fait, là où on a laissé le virus se développer, prendre ses aises, et c'est là où il mute. Donc, il y a un moment, je regrette qu'il n'y ait pas eu d'information plus directe sur l'obligation. Je suis assez d'accord. Et on arrive finalement à une sorte d'obligation, parce que maintenant, pour vivre normalement, il va falloir être vacciné.
Allez, on continue à parler de ce pass sanitaire dans un instant. Je donnerai la parole, bien sûr, à Alexandre Malafaï. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Suite et fin de votre débat des grandes voix ce soir avec Guylaine Ottenheimer de Challenge et Alexandre Malafaï, fondateur du think tank Sinopia. On écoutait à l'instant Guylaine, bien sûr, sur ce pass sanitaire. Alexandre, vous voulez réagir à ce que disait à l'instant Guylaine, hein, juste avant la pause.
Juste comme on est en démocratie, c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue divergents. On a du mal en ce moment à les faire valoir. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'approche qui consiste à dire que grâce au vaccin, on empêche les mutants. Je crois que l'observation montre que c'est plutôt le contraire et que la vaccination des populations générales, notamment en moment de pic pandémique, a plutôt tendance à favoriser ce que les médecins appellent, les scientifiques appellent la pression de sélection. Voilà. Et de toute façon, les virus seront toujours mutés et plus on leur met de contraintes et de barrières, plus ils mutent. Regardez dans un autre registre les bactéries à l'hôpital, plus on a voulu mettre en place des technologies ou des techniques d'hygiène, etc., plus on a développé des bactéries ultra résistantes. Voilà, c'est toujours une course, hein, c'est la glaive et le bouclier. Et c'est toute la difficulté du sujet, c'est que plus on va se protéger, plus en face on aura un adversaire agile et donc on va rentrer dans quelque chose qui est une spirale dans laquelle on est déjà. Et l'autre problème auquel je trouve qu'on est confronté, et là encore, cette espèce de glissement lent avec ce pass sanitaire qui nous fait changer de mode de vie de manière profonde, sans que personne ne dise quand ça s'arrêtera, parce que personne ne le sait, mais personne au niveau de l'exécutif ne promet que ça s'arrêtera. Donc on a en plus une espèce de tunnel, pour l'instant tout le monde est en vacances, personne ne se pose trop de questions, mais de tunnel dans lequel on rentre à nouveau, et pardon, mais quand on nous dit qu'on est vacciné, on continue quand même à mettre des masques. On continue quand même à imposer un certain nombre de restrictions. Ouais. Et je pense qu'à l'automne, je vous fiche mon billet, que compte tenu du fait que le vaccin montrera qu'il n'est pas parfait, que c'est une partie de la réponse, mais que ça reste aussi une ligne Maginot contournée par le virus pour toutes sortes de raisons. Moi, j'ai des amis autour de moi, doublement vaccinés, ils sont tous les deux Covidés, là, depuis une semaine. Et chez eux. Donc, c'est pas une science exacte, ce truc-là.
Je pense
que malheureusement, on aura à nouveau ceinture et bretelles à partir de la rentrée et qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement.
Guylaine.
Est-ce que les personnes contaminées ont un Covid grave? Parce qu'on voit que là, les chiffres augmentent, mais les hospitalisations et les réas sont très faibles. Ebola, qui était quand même quelque chose d'extrêmement grave, a quand même été stoppé grâce à des vaccins similaires à ceux qu'on fait là contre le Covid. Oui, il n'y a pas de solution magique. Je pense que c'est quand même la meilleure des solutions pour le moment.
On a quand même éradiqué. Mais et les soins, quand est-ce qu'on s'intéresse? Parce que vous avez aujourd'hui, comme d'habitude, vous devez suivre ça quand même en tant que journaliste. Dans le monde, vous avez des pays qui se sont vraiment intéressés au fait qu'il faut aussi soigner et que ça donne de très bons résultats. Quand est-ce qu'en France, au lieu de faire peur en permanence,
donnez-moi des exemples.
Qu'on soigne? Parce qu'on peut soigner, on devrait mettre des milliards sur les soins, ce qu'on ne fait pas.
Par exemple.
Regardez, vous avez plein d'études. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je lis simplement. Je peux simplement vous dire que vous avez un certain nombre de pays, en Israël ou ailleurs, voilà, qui ont fait un certain nombre d'essais et que ça donne des résultats qui sont encourageants.
Oui, mais ils ont été les premiers à vacciner tout le monde. On nous a vendu la poudre de perlimpinpin du professeur Raoult. Ensuite, on nous a vendu la plante qu'il y avait à Madagascar, qu'on donnait aux enfants le matin, sur tous les réseaux sociaux. Ah oui, pourquoi est-ce que tout le monde ne prend pas cette plante? J'ai oublié le nom. Et puis maintenant, on s'aperçoit que Madagascar, c'est la catastrophe absolue. Donc voilà, évidemment,
s'il y avait... Vous n'êtes pas en train de dire que c'est pas sérieux ce que vous dites. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne soignera jamais cette maladie. Toutes les maladies, on a inventé une trithérapie.
Laissez-vous parler. Bien sûr,
c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Pour le moment, combien de temps ça a pris de trouver la trithérapie contre le sida? Ça a pris beaucoup de temps et on n'a pas trouvé de vaccin. Là, on a trouvé un vaccin, donc c'est déjà extraordinaire. Ensuite, on peut être... Pourquoi est-ce qu'on continue à porter le masque et avoir des systèmes de distanciation? Parce que c'est vrai qu'on peut... très marginalement, de manière beaucoup moins virulente et de manière beaucoup moins en pourcentage beaucoup plus faible, mais vous pouvez quand même être contaminé et être contaminé sans avoir les effets du Covid. Donc c'est dangereux, vous pouvez contaminer d'autres gens, mais c'est beaucoup plus faible, on ralentit énormément. Ça repart en Israël, ça repart en Angleterre, ça repart dans certains pays, mais c'est pas du Covid grave, c'est pas des... et le but c'est d'éviter hôpitaux. et d'engorger les hôpitaux. Donc oui, on va trouver des systèmes de soignés. Déjà, c'est extraordinaire quand on ait trouvé un vaccin aussitôt. C'est vrai que ces vaccins sont inoffensifs. Il y a, quand on voit les millions de gens qui ont été vaccinés, moi je veux bien qu'on me montre vraiment les catastrophes qui ont eu lieu, mais enfin ça ferait la une des journaux hein, s'il y avait vraiment des gens qui avaient eu des effets très gravissimes avec ce vaccin. Donc voilà, arrêtons, on n'a pas 36 solutions. Alors que le gouvernement ne dise pas exactement où on va, quand ça va arrêter. Mais enfin, il faut quand même voir qu'on est face à quelque chose qui est inédit,
Delphine,
qui est très grave.
2022-2023.
Oui, on nous avait dit printemps 2021, finalement
mais
on pensait
printemps
2022.
Mais beaucoup de gens se sont
c'est vrai
trompés,
qu'on ne sait pas.
Mais, oui, pas,
mais beaucoup de choses ont se trompé. Mais... Et au début, personne ne croyait à Pasteur et personne ne croyait au vaccin contre la variole.
Pasteur a fait des dizaines de simulations qui se sont révélées complètement erronées. Aujourd'hui, le gouvernement nous donne des chiffres qui sont quand même parfois absolument scandaleux. Hier, quand on nous explique par la voix de M. Castex que 96% des cas sont des gens qui ne sont pas vaccinés, mais les gens vaccinés ne se font plus tester. Donc de fait, ça donne effectivement des chiffres qui sont très biaisés. Et je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on retrouve un peu notre raison. Parce que oui, il y a un sujet.
Pardonnez-moi,
je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé, laissez-moi juste un instant. Voilà. Juste parce que sinon, c'est compliqué d'avoir
allez-y,
un débat.
Allez-y.
Juste pour dire, voilà, il faut arriver à trouver une autre façon de vivre. Parce qu'il y avait des maladies avant le Covid. Il y avait des épidémies avant le Covid. Il y avait des grippes. Il y avait des gastro-entérites. Alors, je trouve qu'on a, on a un acquis important qui sont, en population générale, ce qu'on appelle les mesures de prophylaxie et qui apportent véritablement quelque chose. Et dont il faudra garder une trace, notamment pour des gens qui sont malades et qui doivent faire davantage attention qu'ils ne faisaient, mais de grâce qu'on réfléchisse quand même à la façon dont nous voulons vivre demain et après-demain, et pas avec un système qui sera une permanence de contrôle sanitaire, avec une permanence de mesures barrières. Notre société, notre civilisation n'est pas fondée là-dessus. Nous sommes des transmetteurs, et être un transmetteur par la parole, par les idées, par le contact, par la relation à l'autre, c'est aussi malheureusement par l'air, parce qu'on peut transmettre, y compris des virus, mais ça entretient nos système immunitaire, donc il ne faut pas dire n'importe quoi en se mettant dans un monde aseptisé dans lequel il n'y aurait plus de risque du tout.
Laissez parler
Guylaine. Je vois que vous assumeriez tout à fait l'idée que on laisse mourir des gens d'étouffement dans les urgences des hôpitaux.
Non, je dis qu'il faut les soigner.
Mais pardonnez-moi Alexandre, qu'est-ce que vous proposez
mais
vous
mais
en ce moment?
Mais on n'a pas trouvé, mais
il
n'y
a pas
d'autres
moyens finalement, il
n'y
a pas de médicaments sur le marché à part
gens,
le vaccin.
Mais attendez, moi je ne suis pas hostile au vaccin, loin s'en faut.
Quelle est la solution pour le moment?
Qu'on vaccine les gens, ok, qu'on fasse un ensemble de choix politiques, très bien, mais qu'on ne fasse pas ce qu'on est en train de faire.
Ce ne sont pas des choix politiques.
Attendez, pardon. Qu'on donne aux gens l'occasion de se mettre en situation de se faire vacciner, mais pas avec cette espèce de chantage social qui fait qu'à partir du août, 30% de la population ne pourra plus vivre normalement. À un moment donné, quand on est gouvernant, on essaie de fabriquer ce qu'on appelle du consentement en démocratie. C'est un des mots clés de la démocratie. Sur cette façon de faire là, il n'y a aucune recherche de consentement, il y a la pression par la peur, et en effet...
Guylaine conclut.
Il n'y avait pas le consentement pour la ceinture de sécurité. C'était une entrave à ma liberté. C'était très dangereux. Ça allait me casser les côtes, etc.
Vous mélangez tous les sujets, madame.
Non, je ne mélange pas les sujets. Je dis des moments, on peut interdire certaines choses parce que c'est le bien commun. Voilà, il existe le bien commun. C'est pour les autres, c'est pour la population générale. Et évidemment qu'on veut revenir à notre système ancien. Et évidemment que la prophylaxie, c'est quelque chose de formidable. Il faut continuer à se laver les mains. Il faut continuer à se moucher dans son bras. Évidemment, on va continuer tout ça. Mais est-ce qu'on peut laisser faire descendre? Moi, je vois, je suis dans une ville là en province où il y a des fêtes tout le temps. Ben maintenant, ça y est, c'est devenu une ville en zone rouge. Pourquoi? Donc, il y a un moment, il faut aussi être responsable. On n'a pas trouvé les moyens de soigner comme ça par un coup de magie la Covid. Pour le moment, la meilleure arme, c'est le vaccin.
Guylaine Ottenheimer de Challenge et Alexandre Malafaye du think tank Sinopia. Ce soir, vos grandes voix. Débat vif. Merci à vous deux. Bon week-end. Dans un instant, toute l'info avec Sophie Tussaud.